Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous soyez à la maison, au travail ou un peu n'importe où. Marianne Paquette pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. J'espère que vous êtes bien assis parce que ce qui s'en vient fait mal et bouleversant, à savoir qu'au Québec, il y a plus de 1,7 million de demandes qui sont faites par mois pour recevoir de l'aide alimentaire d'urgence. Ça me semblait un petit peu irréaliste comme chiffre parce que, d'une part, on le voit, le gaspillage alimentaire, c'est prouvé, c'est chiffré, ça se passe dans nos maisons. Beaucoup d'aliments qui se retrouvent dans nos poubelles avant même de se retrouver dans nos assiettes. Et d'autre part, il y a des gens ici au Québec en 2016 qui ont faim, dont, de ce chiffre-là, 1,7 million, un tiers d'enfants. Des chiffres très sérieux qui nous viennent de l'enquête annuelle Bilan faim réalisée par les banques alimentaires du Québec. De ce fait, j'aime souligner des initiatives qui tentent de contrer ce phénomène-là qui est alarmant, dont une coopérative alimentaire mise en service tout récemment dans le quartier Montréal-Nord, ici à Montréal. Ça s'appelle Panier Futé et cette coopérative alimentaire souhaite garantir l'accès à l'alimentation pour tous et bien sûr soutenir les citoyens plus vulnérables, plus démunis. J'en parlerai en deuxième partie d'émission avec Gaétan Sirfis, lui, directeur général de Panier Futé. Et puis, vous dire qu'en 2003, il y a un sondage de l'Association médicale canadienne qui révélait que 46 % des répondants, dont des médecins, présentaient des symptômes avancés de burn-out. Et puis, plus récemment, il y a de ça quelques jours, le sujet, en fait, il revient assez souvent dans l'actualité, mais il y a le docteur Alain Vadeboncœur, bien connu du grand public ici, qui publiait dans le magazine L'Actualité un article qui porte ce titre « Et si votre médecin s'enlevait la vie ?» Titre plutôt accrocheur, s'il en est un. Et un article qui pose cette question « Pourquoi des professionnels de la santé qui sont assez bien reconnus là, dans la société, qui ont de bons salaires souvent et qui peuvent s'auto-diagnostiquer pourrait souffrir de problèmes de santé mentale? » La réponse est assez simple, fournie par le docteur Vadeboncœur, mais prouvée par différents chiffres, c'est que les médecins sont vulnérables et souvent plus vulnérables que le reste de la population. Je parle des médecins, là, mais parce que ça semble être un petit peu plus documenté, mais ça pourrait être d'autres membres de l'équipe, d'une équipe de soins, là. Je pense ici à des infirmières, à des psychologues, à des travailleurs sociaux. Donc, comment on s'occupe de la santé de nos soignants? C'est la question que je pose à l'instant à Marc-Daniel Boucher, massothérapeute clinique, professeur en approche clinique de la relation soignant-soigné et en relation d'aide à l'Institut Kinéconcept. Bonjour Marc-Daniel.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là.
Merci.
Est-ce qu'on se tutoie?
Ben oui, pourquoi pas.
On se connaît.
Ben oui.
On se connaît depuis quelques années.
Oui.
Un sujet, Marc-Daniel, qui te tient à cœur, un déclencheur peut-être, parce qu'il y a quelque temps, novembre 2014, une jeune étudiante en médecine résidente en médecine interne au CHUM, 27 ans, s'enlevait la vie. Il y a des statistiques claires en ce sens. Au Québec, près d'un étudiant sur cinq étudiants en médecine pense au suicide. Pour toi, quand ça surgit, ça, dans les médias, ça a été un déclencheur de t'intéresser à ce sujet-là.
Clairement, clairement. J'avais déjà auparavant vécu quelque chose de similaire parce que mon frère, qui était en gériatrie à Notre-Dame, était mort d'épuisement en 2002. Puis je cherchais quelle était la façon de dénoncer cette situation-là de façon posée, ferme, et avisé. Et puis, j'ai pensé que la bonne façon de faire, c'est d'avoir un réseau personnel. Donc, j'ai mis sur pied les groupes de recherche et développement en soins pour soignants et j'ai réuni autour de moi toutes sortes de spécialistes pour qu'on puisse se donner du soutien. Et ça fonctionne vraiment très bien. C'est d'ailleurs important d'avoir son groupe de soutien, en plus d'avoir son réseau professionnel, bien sûr. Et quand le décès d'Émilie Chartrand est arrivé, j'ai mis le point sur la table, Marianne. Mm. Puis je me suis dit, je vais aller plus loin. Je veux me rendre auprès des gens, puisque c'est ma spécialité, dans tous les domaines professionnels, auprès des soignants, pour justement leur apporter ce soutien-là, les aider à se prendre en main et prendre soin d'eux. Parce qu'en prenant soin de soi, c'est bien certain qu'on fait un meilleur travail, on est plus éveillé, on est en meilleure santé, on est fier de soi et on peut mieux aider les autres.
Ouais. Qu'est-ce qui guette les soignants en matière de santé? On pense là, souvent santé mentale. Là, à quoi ils sont confrontés?
Mais ils sont confrontés principalement à la dépression, à la fatigue, au stress, je dirais même à l'épuisement. Mm-hmm. Ils sont dans une situation souvent où c'est... Tout doit se faire rapidement, c'est entre la vie et la mort, on veut faire quelque chose de bien, parce que qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait le serment d'Hippocrate? C'est quoi? Avant tout, ne pas nuire.
Oui.
Ne pas nuire d'abord à soi, c'est l'exemple qui enseigne, on le sait tous. Et ensuite, ne pas nuire dans notre travail à l'autre. On est avec la santé, on est avec des vies humaines, des êtres vulnérables, des êtres qui ont besoin de nous. Et nous, il faut qu'on soit équipés pour pouvoir le faire. Il faut aussi qu'on soit fiers de soi. Si on est épuisé, on est déçu de ne pas donner notre 100%, on n'est pas tout à fait là, on risque de faire des erreurs. Si on fait une erreur, on est encore plus malheureux.
Ouais,
Et on sait qu'on est responsable de quelque chose d'important. La santé, à partir de ça, tout vit.
Ouais.
Alors, si on ne l'a pas soi-même, c'est bien clair qu'on ne peut pas venir en aide aussi bien aux autres. Puis...
Marie-Danielle, la CSST révélait des chiffres effarants aussi en matière de violence dans les milieux de santé et le personnel soignant, les soignants sont extrêmement victimes, très souvent victimes de violence dans leur milieu de travail. Ça aussi, c'est un facteur qui peut affecter la santé mentale.
Ça, Marianne, là, tu soulèves quelque chose qui est presque tabou. C'est très, très important ce dont tu parles, parce que franchement, les gens, quand on parle de ça, ne sont même pas au courant, sont même étonnés. C'est vrai, ils reçoivent des coups de pied, des coups de poing dans le ventre. Ils vont recevoir quelque chose, un objet qui peut faire en sorte qu'ils se font ouvrir le crâne. Ils se font insulter avec des mots qui sont pleins de violence. Ce sont des êtres humains souffrants qui arrivent dans les hôpitaux. Parfois, c'est une souffrance physique intolérable. Les nerfs sont à bout, ils réagissent de façon incontrôlée et incontrôlable. Parfois, on s'y met à 4-5 pour contrôler quelqu'un. Ça peut être un problème de maladie mentale. Et les portes, comme disait l'entrevue, sont ouvertes à n'importe qui peut rentrer.
Bien oui.
Alors nous, on les accueille dans notre bonne vocation d'aider notre prochain. C'est notre travail, avoir une meilleure santé. Mais on ne s'attend pas à recevoir nécessairement toutes ces choses-là. Bien sûr qu'on le sait, on nous avise en formation puis avec l'expérience, mais c'est quand même toujours étonnant à quel point ça peut être quand on le reçoit et on le vit. Et quand on calcule, et c'est bien mentionné, que 100% de ces personnes-là ont subi de la violence, soit verbale ou physique, des personnes travaillant, on parle des infirmiers ou des gens dans les hôpitaux, c'est toute une statistique. Là, on ne peut plus retourner de bord, on ne peut plus être aveugle, puis on doit absolument prendre conscience de ça, de voir la vérité, de s'y pencher. Les gens dans la société se plaignent justement du service de santé, mais il faut aller voir pourquoi. Et la cause, elle est là. La cause, elle est là. D'abord, prendre soin de nos soignants pour avoir une société qui est mieux soignée. Mm-hmm. C'est la base.
On parle de tabou, Marie-Danielle. Tu as travaillé dans les hôpitaux
bien
en
sûr.
Tant que massothérapeute clinique dans différentes...
Soins palliatifs.
Voilà, différentes unités. Est-ce que c'est un tabou entre le personnel soignant de parler de nos soucis en matière de santé mentale, de dire « je suis fatiguée, je suis épuisée, je ne peux plus continuer, j'ai de la misère à me lever le matin » ou peu importe ce qu'on pourrait entendre, là, est-ce qu'ils en parlent entre eux?
Malgré tous les services de soutien qui existent, oui. Oui, parce que quand on en parle aux collègues, quand on en parle au patron, on est considéré comme quelqu'un qui est plus faible, qui n'est pas capable de faire sa tâche. Et à ce moment-là, on essaie de trouver des solutions. On va prendre quelque chose qui va nous tenir un petit peu réveillés, ouais. un petit verre pour pouvoir décamper la journée à la fin. Il y a des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, de boissons, d'alcoolisme, des problèmes de famille, familiaux sérieux, là. Parce que ces gens-là sont épuisés, ils sont violentés, sont... Bon, on parle, il faut s'entendre, on parle de l'aspect fermé, caché. Faut pas oublier aussi tout le positif et tout le bien et le beau qu'on vit dans ce métier-là.
Oui, bien
c'est bien sûr.
Sûr,
ce n'est pas que ça. Mais c'est important de mentionner cette partie-là qui vient arracher toute l'énergie merveilleuse qu'on pourrait mettre au service des gens parce qu'on ne l'a plus. Elle nous est siphonnée. Et ça commence dès les études. C'est pour ça que tu parlais tantôt d'une personne sur cinq.
Un résident sur cinq.
C'est quelque chose, là.
Ouais.
Alors, puis on voit par rapport aux hommes et aux femmes les suicides.
Voilà.
L'homme qui... Et dans le domaine médical, le médecin va avoir plus de tendance à penser au suicide que l'homme en général dans la société, et la femme médecin encore plus que l'homme médecin.
Voilà. Dans l'article du docteur Vadmoncœur, il en parle ça, que les femmes, les soignantes, sont davantage touchées par la dépression, pensées suicidaires.
Oui.
Il fait aussi le lien avec la conciliation travail-famille. C'est
absolument.
Un métier aussi extrêmement difficile. Il n'y aurait pas un lien également à faire?
Oui, parce que l'homme va généralement, on parle en général, hein, c'est pas des étiquettes qu'on pose, c'est très important. Mais en général, selon les statistiques, on a vu que l'homme va plutôt se plonger dans le travail, il va s'épuiser par le travail. C'est un pourvoyeur de nature. La femme, elle est maternelle, éducatrice de nature, donc elle va s'occuper de la famille. Quand elle a fini ses heures de travail qui sont, on le sait, surréalistes, considérables dans le domaine de la santé, elle arrive à la maison puis elle fait un deuxième chiffre avec la famille et s'occuper de tout. Le temps pour elle, pour dormir les fins de semaine, est-ce que ça existe? C'est minimisé. Donc, c'est très exigeant parce que toutes les responsabilités, les devoirs, les enfants, l'éducation, les problèmes. Donc, ça s'ajoute à tout ça.
Oui. C'est quoi les symptômes d'un épuisement professionnel ou d'un soignant? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui en ont dans leur entourage ou, bon, qui ont des amis. Moi, j'ai une bonne amie qui est médecin, là. Comment on peut observer des signaux qui pourraient être alarmants?
Mais d'abord, la fatigue, l'épuisement. Quand on commence à sentir... on n'a pas le même élan pour aller au travail. L'angoisse, la nuit... quand on a de la misère à dormir, puis que ça tourne dans notre tête régulièrement, ou que ça tourne pas du tout, mais on n'arrive pas à dormir. On est pleinement éveillé quand on devrait dormir. Quand on commence à perdre un petit peu notre concentration, on sent qu'on n'est pas aussi vite que d'habitude, on ne répond pas aussi bien. Quand on est plus sensible à ce que les gens nous disent, à ce qu'on vit, par rapport aux patients qu'on rencontre, on va dire « Ah, c'est drôle, ça me touche plus que d'habitude. » Ou « Je pleure à rien » ou « Je me choque facilement » ou quand on sent qu'on a besoin aussi d'une béquille pour pouvoir continuer à faire notre travail.
Alcool, drogue, médicaments.
Oui, ou quand, tout simplement, on commence à avoir une forme de petite, hein, je la mets en gros guillemets, paranoïa par rapport à notre entourage, à dire « Oh, faut pas que je parle de ça, faut que je montre que tout va bien, que... » À partir de là, il y a quelque chose qui est un petit peu plus anormal, qu'à l'habitude. C'est bon d'avoir, c'est pour ça que je parle des groupes de recherche et développement en soins pour soignants, c'est pour ça que j'enseigne l'approche clinique de la relation soignant-soigné, avant tout prendre soin de soi et ensuite prendre soin de l'autre. Et l'interdisciplinarité est une ressource extraordinaire parce que on est dans cette justement dans cette eau, dans ces eaux-là en ce moment, on travaille de concert avec différents spécialistes, mais on peut s'en aller vers un chiropraticien, on peut s'en aller en massothérapie, dire par exemple en massothérapie, on s'en va en soins palliatifs, je le fais, j'apporte un support aux infirmières, aux médecins, on travaille ensemble, on regarde ce qu'on peut faire chacun dans notre domaine. J'ai quelqu'un, un urgentologue qui travaille dans ce domaine-là depuis 25 ans, qui m'a dit, Marie-Danielle, je pourrais te référer à peu près 70 % des cas qui viennent à moi, des problèmes d'épaule, de tension, de dos, de nuque, de poignet. Bien sûr qu'on peut déléguer des choses. Et si chacun travaille avec l'autre dans cette interdisciplinarité, mais vraiment dans les limites de ses fonctions, avec une écoute et un langage commun, on arrive maintenant à délester le surplus incroyable de travail qu'il y a chez certains spécialistes et on sent qu'on a des appuis. On commence à avoir un réseau professionnel en qui on a confiance, qu'on a d'abord et avant tout approuvé parce qu'on a travaillé avec eux et ensuite, on fait un gros backup avec un réseau personnel. Ça veut dire des personnes dans le domaine de la santé ou autres qui sont tout près de nous pour prendre soin de nous, comme un groupe de Jedi. Hein? Mon frère les appelait comme ça. C'est des groupes de Jedi. Et donc, avec ça, on se soutient et moi, je le sais, depuis 2006, j'ai vu, on a avec nous médecine interne, gériatrie, urgentologue, soins infirmiers, massothérapie, kinésithérapie, ostéopathie, chiro, toutes sortes de gens qui sont avec nous et on se soutient depuis 2006. Et on a passé à travers des épreuves, des deuils, des choses incroyables, des accidents où, moi entre autres, où je pensais ne plus remarcher. Et on en sort plus fort. Et ce qu'on apprend, quand je parle de recherche et développement, on l'a fait à travers ce qu'on vit en s'entraidant. Et de là, on peut tellement mieux aider nos patients, être à l'écoute d'eux parce qu'on est à l'écoute de soi.
Donc, se soutenir entre soignants, première piste, apprendre la relation soignant-soigné. Et ça, c'est important parce que souvent, bon, pour avoir des gens, des soignants autour de moi, je me rends compte souvent cordonnier mal chaussé.
Oui.
C'est-à-dire un soignant qui ne s'occupe peut-être pas aussi bien de lui qu'il le fait avec les autres. On sensibilise comment le soignant à dire « OK, toi d'abord ».
Bien, une des choses qui est importante, je disais tantôt, on prêche par l'exemple. C'est le bonheur de faire ce qu'on fait. Puis pour être heureux, il faut se donner de la joie, du bien-être. Il faut être en santé. On dit « aime ton prochain comme toi-même ». Le subconscient va toujours comprendre le prochain en premier. Mais moi, je dis « aime-toi ». Et de la même manière, aime ton prochain. On dit « un esprit sain dans un corps sain ». Encore là, le subconscient comprend que l'esprit va en premier, la raison. Moi, je dis, quand le corps est sain, l'esprit l'est aussi. Et ça va comme ça, cet enseignement-là. On s'en va tranquillement à juste mettre un peu d'humour, écouter, passer à l'écoute. C'est la première étape. Tout n'est que ça. Écoute, c'est bien de partager comme on le fait aujourd'hui. Mais le silence est d'or.
Ça fait du bien aussi. Oui. On s'arrête ici. Déjà, ça a été à la vitesse de l'éclair, Marie-Danielle, mais vous reviendrez. Vous serez toujours, tu seras toujours la bienvenue pour venir en parler. On laissera ton Facebook personnel sur notre site. Également, on laissera ton adresse. Tu invites les
courriel,
gens
oui,
à te joindre par courriel s'ils ont envie de communiquer avec toi. D'autres ressources également, évidemment, le texte du Dr Vadeboncœur dans l'actualité. Oui. Marie-Danielle, je le rappelle, tu es massothérapeute clinique, professeure en approche clinique de la relation soignant-soigné et en relations d'aide à l'Institut Kiné-Concept, également administratrice, au CA de la Fédération québécoise des massothérapeutes. Merci beaucoup.
Je te remercie, Marianne.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Gaëtan Surfis, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Vous êtes directeur général de Panier Futé. Je le disais tout à l'heure en introduction de l'émission, des chiffres assez bouleversants, 1,7 million de demandes pour de l'aide alimentaire d'urgence de façon mensuelle au Québec. Bon, Panier Futé, ça naît d'une observation. Montréal-Nord, il y a des gens dans le besoin aussi?
Absolument. Montréal-Nord est un des quartiers les plus touchés par la précarité, l'isolement, l'exclusion, ce qui a un gros impact sur l'alimentation et la santé des gens en général.
Quels étaient les... Panier Futé, ça a été lancé tout récemment, Gaëtan?
Oui, la coopérative, c'est une coopérative de solidarité. Elle a été créée et constituée en novembre 2014 et elle est vraiment en cours de démarrage depuis mai 2015. C'est à ce moment-là que je suis arrivé dans le projet et la coopérative, en fait, elle vise à garantir l'accès à l'alimentation à tous, donc on dit bien à tous, mais c'est sûr qu'on essaye préférentiellement de rejoindre les populations vulnérables comme les personnes aux prises avec de la précarité, l'isolement, l'exclusion, mais aussi les familles monoparentales, les personnes à mobilité réduite, toutes les personnes pour qui l'accès à l'alimentation devient un enjeu quotidien.
Comment vous pensez aller rejoindre cette population?
Alors, la coopérative bénéficie d'un très grand soutien des organismes du milieu de Montréal-Nord. Elle a été fondée par 5 organismes très bien implantés qui travaillent déjà beaucoup sur le terrain et elle fait partie d'un comité de suivi en sécurité alimentaire qui regroupe 18 organismes de Montréal-Nord et des regroupements citoyens aussi parce que la coopérative a pour but d'offrir un service aux citoyens. Donc, c'est important qu'ils soient impliqués aussi dans la mobilisation autour de ce projet-là.
Panier Futé est également né, Gaëtan, de cette observation qu'il y a des déserts alimentaires dans Montréal-Nord.
Absolument. Et étrangement, ce n'est pas le facteur le plus important par rapport à l'accès à l'alimentation. L'accès à l'alimentation a 3 difficultés, des difficultés économiques, géographiques et physiques. Et c'est vraiment le côté économique qui est le plus limitant pour les gens, en fait, l'augmentation du revenu moyen n'est pas très grande et le coût des denrées alimentaires ne cesse d'augmenter. Une récente étude montre qu'en moyenne, ça a augmenté de 4% par année et il n'y a rien qui prédit que ça va diminuer. Donc, l'accès à l'alimentation économique est très difficile pour beaucoup et de plus en plus de classes de citoyens, si je puis dire, vont être touchés par ces problèmes-là.
Et même des travailleurs, hein, les chiffres le disent. Ouais.
Exactement. Et le deuxième aspect de l'accès à l'alimentation, c'est l'accès géographique. Donc oui, à Montréal-Nord, il y a des déserts alimentaires. Le concept, c'est que faut parcourir une certaine distance pour avoir accès à une épicerie complète. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 1 km à pied.
Et là là.
Donc, pour certaines personnes, c'est quasiment inconcevable de pouvoir avoir accès à l'alimentation. Mm-hmm. Et le troisième volet, c'est plus le côté physique. Donc, les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer ou à mobilité réduite, ça aussi, ça devient un enjeu pour elles.
Mm-hmm. Comment va fonctionner Panier Futé, Gaëtan? Je pense qu'il faut être membre de la coopérative.
Exactement. Oui. Donc, c'est une coopérative, donc la coopérative vise à offrir un service et des produits à ses membres. C'est comme ça que fonctionnent les coopératives. Mm-hmm. Et on a deux types de membres, donc les individus et leurs familles, et aussi les petites organisations qui ont des besoins récurrents d'alimentation. On pense tout de suite, par exemple, à un service de garde en milieu familial, à un centre d'hébergement, à des cuisines collectives, ce genre de projets-là qui, eux aussi, travaillent pour l'accès à l'alimentation. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Sur une base régulière, à peu près deux fois par mois, la coopérative va diffuser dans son réseau une liste de produits avec des prix, puis les membres auront quelques jours pour faire leurs commandes. C'est-à-dire, ils disent, je veux tant de tomates, je veux tant de légumes, de fruits ou d'autres produits alimentaires. On pourra en revenir un peu après. Et une fois que tous les membres ont transmis à la coopérative leurs commandes, ben là, la coopérative va voir ses fournisseurs pour dire, j'ai besoin de tant, tant, tant. Ce qui nous permet, en fait, d'acheter en gros plutôt qu'à l'unité à l'épicerie, par exemple. Donc, c'est là-dessus qu'on va faire, en fait, des économies pour les membres et ils vont avoir une épicerie moins chère au final.
Ben oui, c'est une bonne façon de fonctionner. Comme, bon, on le sait, fruits et légumes, c'est souvent ce qui est le plus difficile, et la viande également, d'un point de vue économique, à se procurer. Est-ce que Panier Futé pourra certifier qu'il y en aura en stock, là, fruits, légumes, viande?
Alors, les fruits et légumes, c'est sûr que pour nous, c'est obligatoire. Quand on parle d'alimentation saine, les fruits et légumes arrivent en première place des produits qu'il faut. On pense que ça va être à peu près un tiers de notre liste de produits, les fruits et légumes. Et le reste, au début, en tout cas, de la coopérative, ça va être des aliments de base, farine, sucre, canard, conserves, mm-hmm. produits d'alimentation sèche comme des lentilles, des pois chiches, pâtes alimentaires, riz, donc des produits de base qui peuvent servir à tout un tas d'utilisations en cuisine. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler au début de la coopérative. Et ensuite, c'est sûr que notre objectif, c'est d'intégrer une épicerie complète. Donc oui, la viande, c'est sûr, le poisson, les produits laitiers, des œufs, tout ça, qui va nous permettre en fait aux membres de faire une épicerie complète via la coopérative. C'est sûr que ces produits-là périssables nécessitent de satisfaire à beaucoup plus de réglementations. Donc, c'est sûr que ça va être à développer dans les premiers mois de la vie de la coopérative.
Mmh. Gaétan, si des gens de Montréal-Nord nous écoutent, comment peuvent-ils s'inscrire?
C'est très simple. Il y a trois conditions pour s'inscrire.
Rapidement, il reste une minute.
Vu que c'est une coopérative, il faut s'acquitter des parts sociales qui sont de 10 $ par personne. Il faut remplir une feuille d'inscription et nous la porter en main propre pour qu'on puisse procéder à l'inscription.
Parfait. Alors, on dirigera les gens vers panierfuté.coop pour qu'ils aient toutes ces informations-là. Gaétan Surfice, directeur général de Panier Futé. Et on vous souhaite que Panier Futé inspire aussi d'autres arrondissements à Montréal. Merci, Gaétan.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, accompagné de Maurice Bauduc. Marianne Paquette au micro. On se redonne rendez-vous demain, 14 h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.